Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire. Nous continuons notre analyse, notre présentation de la Bastide royale qu'est Aigues-Mortes, une véritable représentation du pouvoir et de la décision royale. Justement, aujourd'hui, voyons la fondation et la construction d'Aigues-Mortes. Le choix de l'emplacement dépend des objectifs fondateurs, soit défensifs, comme je vous l'ai dit dans l'émission précédente, soit économiques. Et pour Aigues-Mortes, il fut incontestablement politique. Le site fut peut-être choisi parce que les sources nous indiquent que des chevaliers croisés avaient pris l'habitude de mettre en pâture leurs chevaux, voire de partir pour la Terre Sainte dans les environs de ce qui va devenir Aigues-Mortes. La présence d'une commanderie templière à Saint-Gilles n'est d'ailleurs certainement pas étrangère au choix du site, d'autant qu'on retrouve des templiers dans l'entourage proche de Saint-Louis. Et surtout, le plus important, ces terres n'appartenaient pas à un puissant seigneur qui aurait pu négocier politiquement la cession de ces terres face au roi Saint-Louis. En revanche, ce territoire appartenait à l'abbaye bénédictine de Psalmodie, située sur Saint-Laurent-des-Gouzes aujourd'hui. Comme les moines tiraient profit des salines, la négociation avec le roi dura un certain temps, au moins de 1240 à 1246, car la ville reçut sa charte de fondation seulement en 1246. Le choix du nom dans une bastide est important. Il pouvait être dû ou être en rapport avec un caractère particulier du site choisi, et pour cette bastide, ce sera Aigues-Mortes. Ce nom provient des marais et des étangs qui s'étendaient autour du village, et on a choisi donc le nom de Aqua Morte en latin, Aigas Mortas en occitan, ce qui signifiait eau morte, c'est-à-dire eau stagnante. Une fois le nom choisi, il y avait bien sûr la cérémonie de fondation. Pour célébrer la fondation, une manifestation était organisée par le fondateur sur le site choisi, en réunissant les représentants du fondateur, bien sûr, des hommes d'église comme les évêques, et d'autres présences comme les juges, les seigneurs locaux, sans oublier des gens du peuple, ces derniers étant le plus souvent les futurs habitants de la bastide fondée. Lors de cette cérémonie de fondation, la plupart du temps, était planté dans le sol un long pieu, le pal, qu'on appelait aussi fixatio pal, avec les armoiries du fondateur, dont bien sûr, Aigues-Mortes, les armoiries du roi Saint-Louis. Cet événement est cité dans la plupart des textes fondateurs de chartes de Villeneuve, de Sauveté ou de Bastide. On peut donc envisager qu'il en fut ainsi pour Aigues-Mortes. Avec la cérémonie de fondation, était présentée à voix orale la charte de coutume. On en faisait une lecture publique à voix haute. Bien sûr, quand cette charte existait à ce moment-là. On en faisait une lecture publique à la population présente. Puis, des aboyeurs en faisait une lecture dans les campagnes environnantes pour informer les absents. L'objectif, c'était que tout le monde ne puisse ignorer la charte de coutume et la volonté du suzerain qui établissait une nouvelle ville, ici bien sûr la volonté du roi. Dans cette charte pouvait être inclus le nombre de maisons, de jardins, de terres cultivables, qui étaient en lien d'ailleurs avec la taille des parcelles. Ces parcelles étaient de taille, la plupart du temps, identique, et ensuite, on désignait l'emplacement des bâtiments civils et religieux, leur emprise au sol et leur défiscalisation. S'en suivaient les privilèges accordés aux futurs habitants. On y trouvait les allègements fiscaux, les mesures judiciaires et politiques, comme la gestion autonome par exemple de la nouvelle ville par le consulat, et des mesures honorifiques.
Restez branchés sur Alliance Plus.